las tierras de España, la grande, la sola, desiertas llanuras. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón suena, resuena, resuena, las tierras de España en la cerradura. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, 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 que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar,
Micro-libre, le retour avec les derniers des Mohicans autour de la table, puisque nous sommes que trois aujourd'hui.
Oui.
Voilà, voilà, il y a des déserteurs, il y a des malades, enfin il y a de tout, il y a des gens qui sont, ils ont du travail un petit peu à part ailleurs, donc voilà, ouais. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui avec Emmanuel, bonjour.
Bonjour.
Et puis Christian, bonjour.
Bonjour.
Voilà, et puis on aura aussi, bah, quand même, pour discuter d'un sujet très important, on aura au téléphone tout à l'heure Yves de la Fouchardière, directeur des fermiers de Loué, avec qui on avait décidé de discuter sur cette filière des poulets de Loué, alors qu'on connaît tous.
Surtout dans la région, j'imagine.
Surtout dans la région, ouais. Et donc c'était l'occasion, on s'est dit, de faire une émission sur la filière de production de ces poulets de Loué en Sarthe et puis sur la région limitrophe. Enfin, on verra justement toutes ces questions. Je vous propose tout de suite une première pause musicale. Voilà, histoire de se reposer, on n'a pas fait grand-chose, excusez-nous. Mais on va partir à la campagne avec Kent sur Fréquencier.
C'est le week-end, fini la semaine, allons à la campagne pour nous refaire une santé, rien de tel que la campagne. Je prends la glacière, le pack de bière et un bon pain de campagne, les pâtes au gaz, les chapeaux de paille. Mais loin de la centrale, dans un petit bois, après manger, on part faire une balade. Et quand bien même on est à pied, je te fais le coup de la panne. Allons à la campagne, et oublions Paris, cherchons à la campagne.
Je sais, je sais. T'as peur de t'ennuyer toute seule à la campagne. Sans tes copines, ça serait le bagne. Bon bah,
tant pis pour la campagne.
Et c'est le week-end, bientôt sur Fréquencier. C'était l'occasion d'aller à la campagne avec Kent sur Micro Libre. On va retrouver notre invité pour cette émission consacrée au poulet de Loué, à la filière de production de ces poulets sur notre région, notre secteur. Je crois qu'on peut être fier aussi de quelque chose qui est connu en France et peut-être aussi par ailleurs en Europe ou peut-être même dans le monde entier, comme les rillettes ou les 24 heures du Mans.
Ah, ça c'est sûr.
Ou comme le Genièvre aussi. Donc on retrouve Yves de la Fouchardière, directeur des fermiers de Loué. Bonjour.
Bonjour.
Alors, eh bien, heureux d'être avec vous aujourd'hui pour nous parler, pour nous présenter cette filière de Loué. Donc, on a prévu cette émission en trois parties, comme bien souvent lorsqu'on a des invités. Donc, la première partie, c'était une présentation générale de la filière de Loué. Alors, moi, ce que j'aurais aimé savoir tout d'abord, c'est de quand date ce label ?
Alors, il y a plusieurs dates, évidemment, à retenir. Hein. Donc, il y a une date importante qui est 60 ans, donc le commissaire agricole de Loué du 30 août 58. Qui va initier la période organisée de la filière de Loué, puisque à partir de ce moment-là, va se mettre en place toute des cahiers des charges, des plans de contrôle, et les Sartois ne savent pas, et donc Loué est à l'origine de la création du label rouge en France. Donc, tout ce qui s'est structuré ici a été tellement observé avec intérêt par les Parisiens que très vite, le ministre Pisani, ministre de la culture de l'époque, s'est intéressé à ce qui passait là et a pris le label rouge comme Loué comme étant le modèle de ce qu'il fallait faire et en cochant le label rouge. Mais avant cette période-là, la volaille de la région avait une réputation incroyable. Il y a d'ailleurs des très belles collections d'anciennes recettes de la région de Sillé, j'en ai vu beaucoup là récemment, des recettes de cuisine dans lesquelles les volailles étaient extrêmement présentes et très appréciées, y compris les chapons. Donc il y avait une réputation de la volaille qui était incroyable, au point qu'il y a une femme de la Fontaine qui en parle, Scarron, la comtesse de Ségur, Racine parle des volailles de notre région. Donc voilà, c'est une très vieille histoire de la volaille et une histoire plus moderne, on va dire 60 ans, c'est quand même déjà assez âgé, mais pour le poulet de Loué organisé.
Et donc, si j'ai bien compris, donc ça veut dire qu'en étant la première volaille labellisée label rouge, ça a donné des idées, par exemple, aux gens de Brest, par exemple, qui ont repris cette production de type avec des contrôles label rouge, c'est bien ça ?
Alors, la volaille de Brest, c'est une appellation d'origine contrôlée, nous on a une indication géographique protégée. On est dans le domaine des nuances au niveau des appellations.
Non, mais l'idée de faire labelliser une production agricole, oui, c'est vraiment clair. Partie de Loué alors.
Oui, très clairement, c'est ici que les choses se sont faites. Et par la suite, donc, il y a eu en effet beaucoup de bassins de production, de zones de production en France qui ont voulu faire pareil, mais souvent imité, jamais égalé, comme dit la publicité.
Oui, alors après, c'est chacun l'ego aussi, j'imagine. Alors, Christian, tu avais une question ?
Oui, effectivement, quand j'étais jeune, ce qui fait un bon moment, j'allais passer mes vacances à Sablé, et à Sablé, il y avait un producteur de poulet qui s'appelait Lambert. Et moi, j'ai toujours eu en tête que c'était Lambert qui était à l'origine de la marque de Loué, quoi. Et ça m'étonnait un peu parce que du point de vue... social, hygiène, j'en sais rien, mais c'était pas brillant à l'époque. Hein.
Alors,
je parle d'il y a 60 ans. Hein.
Oui, mais je
plus, pense même, plus.
En fait, quand on parle de Lambert tout de suite, vous parlez d'entreprise LDC aujourd'hui.
C'est ça.
Lambert d'Auvergne-Chansonne,
ouais.
qui est un gros groupe industriel, Sartois, dont les Sartois sont plutôt fiers quand même, parce que l'entreprise qui a une
le L, c'est Lambert.
Et Auguste Lambert a son petit-fils aujourd'hui qui pilote le groupe, qui s'appelle Denis Lambert, qui est un dirigeant extrêmement... il est extrêmement brillant, Denis Lambert. Hein. C'est quand même un type assez étonnant, quand même, parce que le groupe a grandi beaucoup. Il y a 17 000 salariés, ils sont présents un peu partout dans le monde, et ils ont la taille qu'il faut avoir pour résister à la grande distribution. La grande distribution étant très puissante partout, en France et dans le monde, si les entreprises ne sont pas de taille à affronter la grande distribution, elles disparaissent. Mais, donc, l'erreur qu'il ne fallait pas faire dans ce que vous avez dit, évidemment, leur rôle, c'est d'abattre les volailles, c'est de les commercialiser. C'est aussi de produire des poulets industriels qui ont moins, un moins d'intérêt, dans, en tout cas en termes de qualité gustative et qualité d'élevage que les poulets qu'on peut faire à Louvet. Mais ce n'est pas Lambert qui a créé Louvet du tout. C'est le personnage clé, le personnage central chez nous, c'est Armand Boudvin. Armand Boudvin, c'était un éleveur de Chassillet, à côté de Louvet. Uh-huh. Les gens, d'ailleurs, de Chassillet s'appellent... vous ne savez peut-être pas, mais les coquins et les coquines. Je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi. On va faire une émission là-dessus.
Ah. On prend note, en tout cas.
Et donc voilà, donc Lambert est intervenu comme volailler à l'époque. Il était coquinier, d'ailleurs. On ne disait même pas volailler, on disait coquinier. Et donc on avait bien besoin, à un moment donné, quand on est mort de poulet, quelqu'un pour tuer les volailles, parce qu'il fallait tuer les pumées.
Oui, c'est ça.
Et les livrer partout. On a besoin de les livrer.
Mais donc, le départ de la production, c'est à Chassillet.
En fait, le président du... Le député de l'époque était donc le prédécesseur de Le Teul, puis de Fillon, puis de Le Foll, et puis maintenant de Madame Tout-le-Monde, puisque c'est elle qui a pris la députation. Ouais. Donc le prédécesseur s'appelait Paul Goussu, était député de la circonscription, et au commissaire agricole du 30 août 58, donc prend la parole pour dire, mais vous avez un truc fantastique à louer, un marché aux volailles, il y avait jusqu'à 2000 producteurs qui apportaient des volailles sur le marché de louer, pour un village de 1000 habitants. Vous avez un marché extraordinaire, mais ce marché est en train de s'étioler parce que commencent à arriver des poulets industriels de moindre qualité, et si on continue comme ça, ce marché va s'arrêter comme tous les bons marchés de volailles, et bientôt on n'aura plus de poulets de louer. Et Armand Boudvin qui était présent, lui-même producteur de volailles, il dit, mais vous avez raison, monsieur le député, il faut sauver le poulet loué. Donc le déclic, c'est un député, c'est un homme politique, la cheville ouvrière, ça a été Armand Boudvin. On a travaillé avec l'administration, avec le directeur des services agricoles, qui correspond au DDT aujourd'hui, c'est-à-dire le fonctionnaire qui représente le ministère de la Culture dans le département, qui s'appelait monsieur Cheval, qui était quelqu'un de remarquable. Et voilà, le projet après s'est mis en route, il s'est structuré, il y a eu des cahiers des charges, des plans de contrôle. Il a fallu convaincre les agriculteurs que c'était intéressant de faire de l'élevage comme ça, plutôt que l'élevage intensif. Donc, le système a pris le jour où les consommateurs ont compris la différence. Parce que finalement, la filière de louer repose globalement sur les consommateurs. C'est eux qui disent s'ils en veulent ou pas.
Alors, la question qui me vient aussi ensuite, c'est, on parlait tout à l'heure de zone de production. Est-ce que louer a délimité une zone de production pour la production des poulets ?
Très tôt, qui correspondait globalement à la zone de chalandise. Du marché de louer, donc puisque des producteurs venaient des producteurs de volailles de qualité venaient juste à l'entrée d'Angers jusqu'à Laval, donc et puis pratiquement toute la Sarthe venait sur le marché de louer porter ses volailles sur ce marché qui avait une grande réputation. Et en fait, on est resté sur cette zone qui correspond globalement au territoire de la Sarthe, de la Mayenne et un tout petit bout du Maine-et-Loire. Et en fait, plus on est proche du village de Loué, plus il y a des éleveurs. Dans votre coin, dans le coin de Sillé, on a beaucoup, d'éleveurs aussi. On a une vraie grosse culture d'élevage sur une, pas tout à fait dans toute la zone, hein, mais une grosse partie de la zone de la fréquence. Mais c'est, donc voilà, c'est une vraie histoire d'abord de producteurs qui se sont fédérés, qui se sont réunis et qui se sont dit qu'ils étaient plus forts ensemble que tout seuls.
Ouais. Donc on comprend bien que la zone de chalandise, c'est pas, enfin la zone de production, c'est pas 10 km autour de Loué, c'est la Sarthe entière. Et oui, ça correspondait en fait à cette zone historique de chalandise de la vente des poulets, quoi.
De la vente des poulets et de l'approvisionnement par les éleveurs qui prenaient, mon ancien président Alain Linan prenait, il se rappelle qu'il venait avec ses parents ou ses grands-parents dans la deux chevaux avec des caisses en bois dans lesquelles il y avait 30 poulets qui paraissaient être bons pour la vente, et ils allaient négocier avec les volaillers, dont Lambert, Auguste Lambert, mais d'autres aussi, donc leurs volailles, donc au prix du jour, avec les échanges de petits papiers, comme ça se faisait aussi pour les commerces de bovins. Mais donc les producteurs se déplaçaient, ils n'étaient pas visités par l'abattoir, ils se déplaçaient au marché, le lieu d'échange était le marché.
Alors, le nombre d'agriculteurs aujourd'hui qui produisent du louer, c'est combien de...
Il y a 1100 éleveurs, donc 100 éleveurs. Qui produisent des volailles de louer. 1100, donc on parle de volailles, mais aussi des œufs, mais dont 300 éleveurs qui produisent des poules pondeuses, donc qui produisent des œufs, donc... C'est une production, on va dire, à l'échelle de Loué relativement moderne, puisqu'elle date de 78. Alors, quand je dis ça à mes enfants, j'avais aucun de mes enfants qui était né en 78, donc ils me disent « Papa, c'est quand même très vieux, quand même ». Et ils ont raison, mais pour nous qui commençons à prendre un peu d'âge, par rapport aux 1958 de Loué, c'est 20 ans après. Donc, et on a inventé ça paraît incroyable des choses comme ça, parce que surtout pour des gens de la campagne, vous m'excusez, tous ceux qui avaient quelques poules chez vous, mais on a réinventé le fait qu'il y avait des poules pondeuses pour produire des œufs pour les citadins, ne pouvaient se faire sur des grands parcours où les poules pouvaient les picorer, manger des graines, et pas dans des bâtiments et dans des cages enfermées. Puisque à l'époque, en 78, on a commencé à élever nos premières poules d'or, obtenues tout de suite à la Belle Rouge. C'était une révolution que de mettre des poules d'or, puisque tout le monde mettait que des poules en cage. Ouais. Ça coûtait moins cher pour la production des œufs. C'était beaucoup plus simple pour l'agriculteur qui pouvait avoir 100 000 poules pour un seul emploi. Et là, tout d'un coup, nous, on disait, ben non, on va faire des petits lots de poules, et il y a un éleveur à s'occuper de ses poules, et elles iront courir dehors pour un bout de la journée quand elles veulent. Et aujourd'hui, donc, on voit que ce modèle d'élevage-là, on voit toutes les manifestations qui peuvent exister ça et là, ce modèle d'élevage-là, il est plébiscité. Mmh. Il a été aussi réinventé. C'est-à-dire qu'on a inventé l'élevage des poules d'or, ça s'est jamais arrêté. Mais à l'échelle de vouloir commercialiser des œufs partout, entre autres en région parisienne, on était les premiers à faire ça.
Mmh. Ah, donc, la production, donc, c'est les poulets, c'est les chapons, c'est les poules, c'est les œufs.
Tout ce qu'a des plumes.
Tout ce qu'a des plumes. Bah, sauf les œufs, hein.
Non, oui, les poules ont des plumes, mais pas les œufs. Oui. Donc, vous avez raison, la pintade, la canette, l'oie, la poularde, donc le chapon de pintade, donc tout ce qui a des plumes. Donc, pas les cailles, voilà, sauf les cailles. Ouais. Donc, on a même des perdrix, vous voyez, donc même quelques perdrix.
Et je ne sais pas ce que c'est que ça apporte à des questions autour de la table.
Moi, je suis surprise de ce que je viens d'entendre. Je m'attendais vraiment à ce que l'industrialisation soit plus ou moins récente. J'aurais pas pensé une seconde qu'on puisse faire ça en batterie à l'époque. Voilà,
L'élevage en batterie, des poules en cage, ça a commencé entre les deux guerres, entre la guerre de 14 et 31-45. Aux États-Unis, comme souvent d'ailleurs pour l'industrialisation, avec des cages qu'ils appelaient les californiennes. Et donc les poules étaient sur un seul étage, mais comme ça les œufs, les poules étaient enfermées, elles mangeaient juste un petit peu d'aliments, elles mangeaient ce qu'il fallait pour produire un œuf, elles avaient de quoi boire. Et puis comme le tapis était en pente, le fond de grillage était en pente, l'œuf roulait devant et les agriculteurs ramassaient les œufs facilement. Mmh. Puis après ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient mettre jusqu'à 7 étages de poules, ils ne sont pas gênés pour le faire. Donc, plus il y avait des poules dans un bâtiment, plus c'était automatisé, moins il y avait besoin de monde.
Et
malgré tout, ils arrivaient à gérer super bien les conditions d'élevage en mettant juste ce qu'il fallait comme lumière, juste ce qu'il fallait comme alimentation, comme eau. Les animaux ne mouraient pas. Ils pensaient très peu parce que finalement ils n'avaient pas de vie sociale importante. Donc, ils ne voyaient pas trop la lumière du jour, mais ils pondaient le maximum d'œufs avec le minimum de coûts. Les consommateurs étaient contents. C'était l'époque où ils allaient réduire absolument tous les coûts alimentaires au bas.
Ouais, et puis, on ne souciait pas encore beaucoup de la qualité nutritionnelle des aliments qu'on mettait dans nos assiettes.
Je pense que je suis là un peu d'accord avec vous. Je pense qu'une poule qui va dehors, comme un poulet quand il va dehors, à un moment donné, on ne sait pas très bien ce qu'il va trouver dehors, mais il n'est pas con. Hein. Une poule, elle sait que s'il lui manque un truc, elle va le trouver elle-même dehors. Donc, et nous, on ne sait pas toujours exactement ce qu'il leur faut. Ils ont des instincts qui sont très forts, les animaux, et ils sont capables de rééquilibrer leur régime alimentaire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, évidemment, dans un milieu fermé.
C'est même notamment qu'ils vont manger quelques cailloux, parfois, pour justement aider à broyer les aliments, ou des petites choses comme
absolument.
Ça.
Absolument, on appelle ça le grit, vous avez absolument raison. Les poulets doués ont des gésiers énormes, parce que justement, on leur donne à disposition des petits cailloux pour faire les molaires, pour qu'ils puissent brouiller les céréales. Et ils adorent manger ça, hein. Donc ouais. Ça casse les machines à l'abattoir, mais c'est pas grave, c'est très important qu'ils trouvent le grit, c'est leur instinct.
Oui, alors ce qui me vient à l'esprit quand vous racontez cette histoire de l'industrialisation des modes de production, en fait, c'est alloué, alors vous me dites si je me trompe ou pas, si j'avance cette hypothèse, c'est alloué donc qu'est peut-être née cette idée que non, il fallait pas aller dans ce mode industriel d'élevage en batterie, et ce serait peut-être alloué que serait née l'idée de dire on va remettre les poulets dehors, c'est ça un peu l'idée?
Alors, ce qu'on va dire au tout départ, quand on est en 58, l'industrialisation des poulets de chair commence juste, donc les gens ont enfermé leurs poulets depuis un moment déjà, donc ils n'ont pas encore des races à croissance très très rapide comme c'est le cas aujourd'hui, mais ils sont rentrés dans une logique à un moment donné de réduire les charges, tout le temps de réduire les charges, ouais. et pour ramener un produit le moins cher possible. Mmh. Faut pas se tromper du tout. Il y a des éleveurs de poulets standards qui m'écoutent, par exemple, ils vont être curieux de ce que je dis, mais ils sont pas en cause, ces éleveurs-là, puisqu'en fait, évidemment, celui qui est en cause, c'est le consommateur, c'est celui qui achète de la production pas chère, à un moment donné, donc, et qui cherche une production pas chère, à un moment donné, donc si les consommateurs cherchent des poulets industriels, c'est pas de la faute du producteur qui le propose, c'est bien de la faute du consommateur qui choisit. Et nous, on est parti sur un schéma complètement différent, en disant, on va sauver une production traditionnelle, on va essayer de la faire comme elle se faisait avant, on fiche ça dans le marbre au travers d'un cahier des charges, qu'on fait reconnaître par la France, d'abord, puis maintenant reconnu par l'Europe, donc et qu'un cahier des charges qui ne bouge jamais, et donc qui est contrôlé par un organisme certificateur qui vient vérifier, un flic tous nos éleveurs payent des cotisations pour que quelqu'un vienne contrôler leur élevage quand il veut, avec un pouvoir de police total, c'est-à-dire il peut dire ce lot de volailles ne sera pas commercialisé en poulet doré parce qu'il n'a pas respecté un critère important, et c'est que eux qui décident, c'est pas nous qui décidons. Et bien ce système de la cahier des charges très fort, avec un contrôle externe très juste, à un moment donné, ça donne l'élément qui est fondamental pour un consommateur, ça donne la confiance. Donc, ouais. Puisque on peut après dire, on peut peut-être élever les poulets élevés encore plus que les 90 jours de moyenne où ils sont abattus, on peut peut-être monter jusqu'à 100 jours, 110 jours, d'ailleurs on en fait des volailles de plus de 100 jours. On peut le faire, on peut encore aller plus loin, et encore plus loin. Mais ce qui est surtout important, c'est que quand quelqu'un écrit quelque chose, c'est que ce soit contrôlé par quelqu'un qui vérifie que ce qui a été dit a bien été fait. Et c'était une très belle idée en 58 de dire, non seulement il faut un cahier des charges, mais il faut un contrôle externe, il faut un vrai contrôle. Et c'est vrai que ce qui s'est passé en France, c'est totalement exemplaire. On est visité, là on voit bien la pression sociale qui est mise excessive, hein, totalement excessive, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, sur le bien-être animal qu'on subit les uns les autres aujourd'hui, parce que c'est assez angoissant quand même, les reportages qui se multiplient pour dénoncer ceci et dénoncer cela. Et je crois que personne n'a gagné à dénoncer trop et tout le temps. Donc, mais il est vrai qu'aussi, on est visité par ce matin, on avait des Allemands encore qui étaient chez nous, des gens qui viennent de visiter du monde entier, les Allemands c'est juste à côté, mais il y a des gens qui viennent de très loin. Et quand ils viennent voir les élevages de louer, ils me disent, mais c'est pas possible d'élever des poulets comme ça. Personne n'imaginait qu'on pouvait élever avec 1100 éleveurs des poulets dans ces conditions-là. Mmh. Puisque ces 1100 éleveurs ont 9000 hectares qui sont consacrés à l'élevage des volailles, qui servent qu'à ça. Donc c'est quand même pas rien.
Alors je pense qu'on anticipe un petit peu la deuxième partie de l'émission, mais on va revenir sur ces points en détail. Je vous propose une autre pause musicale. On va retrouver une chanson de Pierre Perry qui s'appelle Le Poulet sur Fréquence Tillet.
Ça vous réjouit le palais, un poulet. Si l'oiseau a piètre figure, c'est qu'il a bouffé des cailloux, ce poulet, ou qu'on le nourrissait d'injures. Si de membres il est dépourvu, c'est qu'il vient de faire la guerre. S'il les a tous par imprévu, c'est qu'il a déserté naguère. Si vous savourez un poulet grassouillet, déserteur mais mort de vieillesse, ne mordez le blanc s'il en reste qu'après avoir eu pour sa hardiesse la pensée due à ce héros qui depuis sa plus tendre enfance faisait pipi sur le drapeau pendant la minute de silence. Ça vous réjouit le palais, un poulet, pour savoir si la bête est tendre. Vous lui triturez fortement les poignets. Si jamais il se fait entendre, c'est que le pauvre n'est pas mort. Dès lors vous regrettez le crime et honteux rongé de remords. Replantez ses plumes et qu'il vive.
Le poulet sur Fréquence Tillet, une vieille chanson de Pierre Perret, tout à fait de circonstance, puisqu'aujourd'hui on parle des poulets de louer, de l'histoire de la production, mais aussi du consommateur, des labels, etc. On a au téléphone Yves de la Fouchardière, directeur des fermiers de louer. Vous êtes toujours là ?
Absolument.
Voilà, on s'est permis de raccrocher, puisqu'il y avait quand même un petit problème de connexion. Donc voilà, je pense que le problème est réglé.
C'est meilleur là, oui ?
Oui, là, c'est mieux là, voilà. Alors surtout ne bougez plus, parce que des fois on a des problèmes de réseau ici, c'est assez bizarre, enfin bon. Voilà, donc on était parti sur les normes, le label rouge. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la philosophie du label rouge, parce qu'on en parle beaucoup. Il y a plein de choses qui ont des labels rouges en France, sur plein de produits, mais c'est quoi un label rouge pour des poulets par exemple ?
Alors, vous avez raison, d'ailleurs, on peut dire en France et aussi en Sarthe, puisqu'en Sarthe, on a nos amis du Porc Famé de la Sarthe qui sont des labels rouges,
oui.
On a de Bœuf Famé du Maine qui sont très présents dans la région de Sillé aussi, donc qui ont un label rouge. Donc, il y a peut-être en Sarthe, peut-être 1500 producteurs qui ont une production avec un cahier des charges label rouge. Dans le domaine des volailles label rouge, donc il y a un cahier des charges qu'on appelle un cahier des charges central, je ne sais plus comment il s'appelle, mais pas tout, je voudrais savoir ça, un cahier des charges pivot, donc, qui prévoit donc un certain nombre de critères qui doivent être atteints, donc l'accès à un parcours obligatoirement, donc allouer ses libertés pour la plupart des labels rouges, c'est plein air, donc c'est un parcours qui est limité, mais c'est un beau parcours quand même, une alimentation céréalière, donc qui est de 75% de céréales au minimum pour le label rouge, c'est 80% pour les poulets loués. Un type de croisement, donc nous on a des croisements très spécifiques puisqu'on a notre propre sélection, donc des croisements qui sont à croissance lente, donc, qui sont pour les poulets jaunes, et pour les poulets noirs, les poulets connus. J'ai peut-être déjà vu ces poulets qui ont l'impression que c'est des petits vautours.
Oui, qu'en plus de plumes sur,
le cou. Mais en fait, ils ont une peau très fine, c'est des animaux qui... très intéressant sur le plan quand on est intéressé, surtout pour une consommation de poulet entier. La peau est très fine, elle n'est pas trop grasse, elle est très agréable à manger. Donc,
et plus
voilà,
facile à
tout un certain nombre d'autres critères. Donc une alimentation sans OGM pour louer par exemple. Donc il y a 20 ans qu'on n'a plus d'OGM On n'a jamais eu d'OGM dans la filière de louer. Donc on a interdit les OGM et tout le monde en parle maintenant, mais nous on était les premiers à le faire. Donc,
et ça c'est valable pour tous les labels rouges, j'imagine, l'interdiction des
non,
OGM.
En l'occurrence, on n'a pas réussi à convaincre nos collègues du sud-ouest qui voulaient garder la possibilité d'utiliser des OGM. C'était,
d'accord, donc c'était ça veut dire idiot, que des poulets labels rouges en sud-ouest.
Les poulets landais, par exemple, consomment des OGM. C'est idiot, mais c'est comme ça. Donc,
poulet landais, c'est Saint-Sverre, non?
Oui, absolument. Donc on a essayé de se battre pendant des années pour essayer de les convaincre. Le label rouge devait se passer des OGM et malheureusement donc on n'a pas réussi à les convaincre. Donc si bien que la décision a été prise au niveau de notre cahier des charges à nous et pas du tout au niveau du label tout court. Donc c'est dommage.
Donc c'est hors label, mais un bonus quand même de savoir que les poulets de louer ne mangent pas d'OGM.
C'est important, oui.
Alors vous parlez des espèces de poules. Alors j'imagine qu'un agriculteur qui se lance dans la production de poulet de louer ne peut pas prendre n'importe quelle espèce de poule. C'est fourni comment? Comment est-ce qu'il monte aujourd'hui son exploitation?
C'est une très, très bonne question. En fait, on est dans un système, quand on élève des poulets de louer, finalement, quand on devient éleveur de poulets de louer, on n'est pas éleveur de poulets de louer tout à fait par hasard, on fait acte de candidature. Et puis la candidature est retenue ou pas, pour différentes raisons. Il faut qu'on en parle avec le candidat. J'ai un responsable qui s'occupe que de ça et qui le fait très bien. Et dès lors qu'un éleveur décide d'élever des poulets de louer, l'éleveur en liberté, fermier, etc., si le poulet gagne sa liberté, l'éleveur n'a pas la sienne, puisqu'il n'a pas le droit d'élever ses poulets comme il entend.
Ouais.
Il n'a pas le droit de s'approvisionner là où il le veut, puisqu'en fait, nous, ce qu'on doit faire et ce qu'on doit tenir en année d'un bout à l'autre, c'est une production qui reste au plus haut niveau pour tous les producteurs.
Et
donc,
oui.
Donc les races de poulets sont désignées, l'endroit où on fait naître les poussins, c'est désigné, il y a deux couvoirs dans la Sarthe qui font naître des poussins. Donc la nourriture des poulets, elle est faite dans notre unité de fabrication qui appartient à la coopérative, qui est allouée même.
Donc ça veut dire qu'un
agriculteur... Donc les éleveurs n'ont pas beaucoup de liberté finalement, les éleveurs perdent beaucoup de liberté et les poulets en gagnent beaucoup. Donc,
ouais, alors...
Mais c'est comme ça qu'on donne quelque chose de sûr. Quoi.
Voilà. Donc, dire par exemple que l'image de l'agriculteur qui a son maïs dans son champ et qui donne à ses poulets, c'est pas ça.
Ah
quoi,
bah,
en
c'est
fait.
Vrai. Si, c'est vrai, puisque de l'autre côté, l'éleveur perd même sa liberté de faire ce qu'il veut avec ses céréales, puisque et quand on élève des poulets loués, on doit fournir des céréales pour faire l'alimentation des poulets. Donc ils fournissent au moins 50% de l'alimentation des poulets, donc en céréales qu'ils ont tout ce qu'ils veulent. Ben, vous voyez, donc le lien est bien fait avec le sol. C'est important.
Et donc ça veut dire aussi que la production de céréales faites par l'agriculteur est contrôlée, j'imagine.
Ouais, absolument. On met des contraintes dessus et sur le stockage aussi, donc de manière à pas prendre de risques. Et si la céréale, quand elle arrive à l'IFEL, si elle n'est pas conforme à nos qualités, elle fait demi-tour. Mmh. Donc, on ne prend pas de risque à un moment donné, donc ce qui compte nous, c'est qu'on livre des poulets qui soient parfaits. Hein. Donc on ne prenne pas le moindre risque, qu'on n'ait pas le moindre problème et,
ouais.
et qu'on ne mette pas en danger nos consommateurs.
Et donc je suppose que vous avez dans des petites voitures qui circulent sur toute la Sarthe et ailleurs, des gens qui sont chargés de contrôle qualité sur les
absolument.
Exploitations, c'est ça, oui?
Oui, absolument. Il y a 11 contrôleurs internes donc, qui sont rattachés à la coopérative. Et il y a 6 contrôleurs externes qui sont rattachés à un organisme certificateur tiers qui sont libres de se déplacer chez qui ils veulent, quand ils veulent, pour venir contrôler ce qu'ils veulent.
Ouais.
Dès lors que c'est le cahier des charges, évidemment, on va contrôler la cuisine de l'éleveur.
Et non.
Mais l'élevage, par contre, il peut être visité de A à Z.
Mais on peut imaginer aussi que la personne agriculteur qui décide de se lancer dans la production de poulets de louer bénéficie aussi d'une sorte de formation ou d'accompagnement. On ne le laisse pas comme ça se lancer tout seul, j'imagine.
Absolument, il y a une formation des éleveurs, une formation initiale qui est faite, qui dure 5 jours. Il y a un parrainage, donc là j'ai vu récemment une réunion de parrains, donc j'ai vu un parrain, un éleveur qui n'avait pas 30 ans, mais qui parrainait un éleveur qui avait plus de 50 ans. Donc c'est amusant parce que, mais comme celui qui n'a pas 30 ans faisait déjà du poulet depuis pas mal de temps,
ouais.
Il est plutôt très bien, parce qu'on essaie de choisir des très bons éleveurs, et bien il parrainait son aîné qui découvrait la production. Donc, et puis évidemment l'équipe technique qui est sur le terrain, accompagne les éleveurs et est disponible pour les éleveurs, y compris le week-end.
Alors, on parlait aussi tout à l'heure des espèces de poules. On parlait des poulets à croissance lente. Et puis, à côté de ça, dans l'industrie agroalimentaire, on a des poulets à croissance rapide. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ça? Comment se fait la sélection autour de ces races, rapidement, sans entrer dans le détail non plus?
Oui, non, si. Il faut, juste pour comprendre l'échelle dont on parle, il faut comprendre que naissent et meurent sur la planète 1 milliard de poulets toutes les semaines, à peu près. Ce milliard de poulets, pour 90% à peu près, presque 95%, il est produit par 2 sélectionneurs, donc un Allemand et un Américain. Ah oui. Donc il y a 2 fois 10 000 reproducteurs quelque part qui font naître
les mêmes poulets.
950 millions de poulets toutes les semaines. Donc, donc des poulets qui ont travaillé génétiquement pour aller le plus vite possible, coûter le moins cher possible. Donc à la limite, il peut y avoir un aspect positif si on veut être très positif. Alors, avoir le bilan carbone est plus faible, parce que plus vous abattez tôt un poulet, moins il a mangé, donc moins il a consommé de carbone. Donc il peut avoir un bilan environnemental favorable de ce point de vue-là. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas dire les choses de manière toujours négative, autrement. Mais c'est des poulets c'est des Formule 1, quoi. Donc, et à côté, nous, on se balade avec nos 2 chevaux de 1958, et qui n'ont pas beaucoup changé.
Et alors, 90 jours, pour toujours vous, à des 2 chevaux. 90 jours, c'est la 2 chevaux?
Oui, 90 jours, c'est vraiment la 2 chevaux, parce que on peut aller encore un peu plus lentement. On a quelques races sur lesquelles on va encore un peu plus lentement, comme le petit chaperon, par exemple. Mais voilà, on peut monter à 100 jours, mais par rapport à 35 jours, si vous voulez, ça change tout. Quoi. Ça change
vraiment 35 tout. Jours à 90, ouais, c'est pas la même chose. Et donc, c'est assez surprenant, vous nous apprenez que 95% des poulets dans le monde sont issus de 2 espèces, c'est tout. Enfin,
De 2 sélectionneurs, c'est même plus sélectionneurs, des espèces, ouais. À ce niveau-là. On appelle ça des souches, donc de 2 souches, mais c'est terrible. Hein.
Eh oui.
Il n'y a plus de biodiversité. Et chez nous, à Loué, on élève 4 couleurs différentes, 4 origines différentes. Mmh. Donc, alors qu'on élève trois fois rien comme poulet par rapport à l'échelle du monde.
Ouais, c'est ridicule. Alors, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que les autres labels en France ou en Europe sur les labels d'élevage ont aussi leur propre race, j'imagine, de poulet.
Non,
pas forcément.
En Europe, il n'y a pas de label. C'est la France qui a inventé le label, ça n'existe pas en Europe. En Europe, ils arrivent à croiser quelquefois des poulets industriels avec des souches un peu plus lentes, à croissance un peu plus lente, à croissance intermédiaire. Mais c'est des poulets blancs, c'est pas des poulets de grande qualité. Donc on est très loin de ce qu'on peut faire en France. Donc c'est pour ça que quelquefois on est malheureux de voir des reportages qui critiquent l'élevage dans sa globalité, qui font pas trop la différence finalement. Oui. Parce qu'on est toujours l'industriel de quelqu'un. Oui. Même louer à un moment donné, vous passez devant un bâtiment, vous voyez un bâtiment où il y a plusieurs milliers de poulets, vous allez dire c'est très grand.
Oui, mais à côté de ce qui se fait à l'échelle mondiale,
dans un élevage, pour produire autant de poulets que de louer dans des élevages comme j'en ai visité en Israël, comme il y en a en Ukraine, comme il y en a en Pologne, il y en a aussi un peu en France, mais un peu moins, c'est souvent un peu plus petit les élevages, mais c'est quand même très proche de ça. Avec 15 éleveurs en Ukraine, on produit la production de 800 éleveurs de louer.
Ah oui. Emmanuel, tu avais une question?
Oui, alors moi je reviens un petit peu en arrière sur cette histoire de chevaux, parce que je suis un peu étonnée, hein. J'ai quelques poules à la maison, je vois les poussins naître. Moi, avant d'avoir un poulet de taille comestible, je dirais que c'est pas 90 jours qu'il faut, c'est beaucoup plus. Et je voulais savoir un petit peu comment on arrive à ce résultat-là pour avoir des poulets suffisamment chers au bout de 3 mois.
Non, vous avez moi je connais vraiment très très bien l'élevage parce que je suis né dedans. Et bien sûr, si vous nourrissez vos poulets à la petite semaine à un moment donné, vous allez mettre pour la même durée d'élevage à un moment donné, vous allez monter jusqu'à 120 jours. À partir de 150 jours, 170 jours, si c'est une poule, vous avez déjà des œufs. Hein. Donc vous avez vos premiers œufs qui arrivent. Quand vous avez vos premiers œufs, vous n'êtes déjà plus un poulet. Hein. Vous avez une poule. Et à mon avis, vos enfants mangeront, sauf s'ils ont une bonne habitude de ça, avec beaucoup plus de difficultés la viande d'une poule.
Beaucoup plus ferme, certes. Oui.
Voilà, beaucoup plus ferme, presque trop ferme.
Mais au niveau, c'est la taille
qui m'étonne. Un poulet loué, c'est déjà
ferme. La taille qui m'étonne pour 3 mois, parce qu'ils sont quand même costauds.
Oui, 3 mois. Bah, ils font 2,50 kg, hein, 2,100 kg. C'est pas si énorme que ça, un poulet loué. Hein, donc, c'est pas des poulets de 3 kg. Si vous voulez faire un poulet de 3 kg, en effet, il faut l'amener à 120 jours. Donc, c'est pas du tout.
Donc au niveau de l'alimentation, en fait.
C'est des céréales. Oui, pardon, excusez-moi, j'ai pas répondu à votre question. Pour nourrir comme il faut un poulet, il faut d'abord des céréales. C'est un granivore, donc du blé et du maïs. À peu près pour moitié, en sorte on a la chance d'avoir les deux céréales bien produites. Donc il faut donc des protéines, puisque les céréales ne sont pas des protéines. Donc c'est du tournesol, du colza, un peu de soja, jamais d'OGM. Et puis il faut un peu de minéraux, des minéraux pour faire les os, qui peuvent être du carbonate de calcium, c'est-à-dire du calcaire broyé.
Le carbonate de calcium,
c'est très scientifique, mais c'est du calcaire qui vient de la Mayenne, qui est broyé, pour qu'ils puissent fabriquer leurs os de ma fabrication à ma disposition. Mm-hmm. Et tout ça, c'est broyé. Donc, et c'est pas plus compliqué que ça, l'alimentation. Après, c'est pas, il n'y a pas, évidemment, pour les poulets comme les nôtres qui ont des croissances de 20 grammes par jour, il n'y a pas besoin d'huile de palme, il n'y a pas besoin de choses comme ça.
Mais on reste en protéines végétales, par contre.
Protéines végétales, oui. Des protéines végétales, il en faut toujours un peu, mais même sur un, c'est même mieux si vous avez des poules chez vous, donner un peu de tournesol à vos poules. Donc, jamais, évidemment, jamais de protéines. Nous, on avait interdit les farines animales en 1958.
Mais sachant que la poule est quand même omnivore, à la base, en se promenant sur un parcours.
Oui, donc mon poulet, ils vont trouver des sauterelles, ils vont trouver des vers de terre, ils vont trouver des fruits à la saison dans les parcours. Ils vont trouver des insectes, ils vont trouver des tas de choses qu'ils vont manger avec, avec beaucoup d'intérêt.
Oui, donc, tout l'intérêt de ce parcours libre.
Mais sur les parcours, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Oui. Donc c'est pour ça qu'on, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une bonne partie de l'alimentation. Une partie de l'alimentation est contrôlée, une partie n'est pas contrôlée. Mais c'est pour ça qu'il faut, on a interdit sur nos parcours depuis toujours à louer de mettre du glyphosate ou des pesticides. Les parcours doivent rester bio parce qu'on sait que les poulets consomment beaucoup de choses, surtout les pintades. On consomme beaucoup de choses sur les parcours, donc si on commence à mettre du glyphosate, on va retrouver du glyphosate dans, dans les graisses de nos poulets. Donc il est hors de question que ça arrive, hors de question. Donc le seul moyen que ça n'arrive pas, c'est interdire donc l'utilisation des pesticides sur les parcours. On n'est pas très nombreux à faire ça.
Et sur les cultures également, puisque vous produisez vos céréales?
Alors, sur les cultures, ça dépend. Pour la partie des poulets, parce qu'on ne m'a pas précisé, mais en poulet loué, il y a une partie de la production qui est en label rouge, une partie qui est en bio, donc qui est de plus en plus importante et qui n'est pas moderne, puisque ça a commencé en 95, la bio chez nous. Personne ne parlait de la bio à l'époque. Hein, donc, et d'ailleurs, sur le canton de Sillé, il y a quelques très bons producteurs de poulet bio, et historique pour certains d'entre eux qui ont commencé dès 95. Et donc, en fait, si l'alimentation, si c'est un poulet bio, l'alimentation, les productions végétales ont été biologiques, donc elles coûtent simplement 2,5 fois plus cher, pratiquement. Donc, un blé ou un maïs bio, ça coûte pratiquement 2,5 fois plus cher qu'un maïs ou un blé conventionnel. Si c'est la belle rouge, c'est conventionnel. Donc, c'est un vrai choix à un moment donné. Donc, un choix que nous, on est content de proposer. Oui.
Alors, justement, sur le bio, donc c'est quelque chose qui se développe. Le pourcentage de vente aujourd'hui entre le bio et le label rouge, c'est combien?
Eh bien, si on regarde les œufs, parce qu'on parlait des œufs et de la volaille, sur la volaille, on doit être entre 5 et 10% des volailles qui sont des poulets biologiques.
Ouais.
Donc, essentiellement, de nos volailles, hein, de nos volailles, oui, évidemment, par rapport à la volaille française, c'est beaucoup plus faible que ça. Et pour une raison assez simple, c'est que nos poulets labels amènent quand même beaucoup de choses intéressantes quand même. Hein, donc l'écart de coût est quand même relativement important et les gens peuvent être un peu contraints. Et dans le domaine des œufs, on a 20% de nos œufs qui sont des œufs bio. Donc on voit que dans le domaine des œufs, les gens ont un intérêt fort hein, pour l'agriculture biologique. Et donc il y a une bascule assez importante qui s'est faite. Mais attention là aussi, nous on prône une agriculture biologique responsable, c'est-à-dire celle qui fait appel à une production de céréales locales. Je peux vous citer des marques, mais je n'ai pas envie de le faire à la radio, qui sont très connues dans le domaine des œufs et qui vont chercher des céréales en Ukraine, du soja en Chine, donc des céréales biologiques qui viennent d'Ukraine, de soja qui vient en Chine, qui est dit biologique aussi, et donc à travers les océans, et qui fait un œuf biologique avec une très belle marque et très connue.
Oui,
et donc à un moment donné, je trouve ça très grave, ça, parce que les consommateurs pensent acheter une production locale, une production... là, on est même, moi, de mon point de vue, je ne suis même pas sûr, quand on va chercher en Chine, que ce soit vraiment de la bio, mais il y a un certificat. Et donc tout ça, tout le monde s'en fout. Donc voilà.
Mais... Non, mais c'est important du coup de dénoncer aussi. Hein, vous ralliez un petit peu contre les gens qui...
Bah, je pense qu'il y a dans tous les métiers, surtout quand les choses deviennent à la mode, il y a des opportunistes. Mais il n'y a rien d'illégal dans ce que je décris. Tout ce qui est fait est complètement légal. Ceux qui le font ont le droit de le faire comme ça. Il n'y a rien qui les empêche. Ils ont pas fraudé. Ils ont simplement respecté la réglementation. C'est simplement les gens ne sont pas curieux jusqu'au bout. Quand ils voient le mot bio, ils pensent que c'est magique. C'est magique que si les gens qui sont derrière sont sérieux. Si ces gens pas très sérieux, bah ils ont été opportunistes et ils ont amené. D'ailleurs, il y a des productions biologiques qu'on voit quelquefois qui sont à des prix tellement bas qu'on devrait s'interroger de savoir si c'est vraiment des productions bio.
Hein. Oui, Alors moi j'avais une question qui a fait la transition avec la dernière partie de l'émission. On fera une pause, mais j'avais une question avant justement de faire cette transition. Est-ce que au niveau goût, au niveau gustatif, bon, je pense notamment aux restaurateurs qui ont des papilles plus développées que nous, est-ce que l'on peut sentir la différence entre un poulet label rouge et un poulet loué bio?
Non, vous ne pouvez pas me poser la question, vous le savez très bien, c'est de la provocation. Évidemment, oui. Il n'y a pas photo, vous prenez un poulet entier, mais faites l'expérience pour ceux qui auraient des doutes encore.
Ah, moi, j'adore le poulet label rouge de Louis. Ouais, donc,
il faut mettre, il faut vraiment, oui, j'ai compris, il faut mettre dans le même four, c'est pas grave, tant pis. si vous l'aimez, vous le mangerez quand même. Si vous l'aimez pas, votre chien le mangera. Mais mettez un poulet entier standard et un poulet label de louer à côté dans un four.
La question, c'était entre le label rouge et un poulet bio de louer.
Ah, pardon, excusez-moi, désolé, je vous prie de m'excuser. Non, je croyais que vous alliez j'étais surpris de la question.
Non,
il n'y aura pas de différence gustative, il ne peut pas y en avoir. Il ne peut pas y en avoir parce que la durée d'élevage est la même, la densité est la même, de moins, les types de bâtiments sont les mêmes, les races sont les mêmes, donc il n'y a que l'alimentation qui change. Et donc on ne peut pas percevoir une alimentation biologique, un blé ou un maïs, qui soit bio ou non, ça ne change pas grand-chose en termes, ça ne veut rien changer en termes de goût pour le poulet, ça ne change pas grand-chose. Donc, malheureusement.
Et en termes de texture, parce qu'on sait que le label rouge, par exemple,
ça change rien,
la chair,
la durée d'élevage,
c'est
la texture.
D'accord.
Non, c'est vraiment la durée d'élevage. Non, ce qui est bien quand on mange bio, la plupart des gens qui mangent bio pour eux-mêmes. Hein, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils ne vont pas tomber malades puisque le produit n'a pas été en contact avec des pesticides. C'est pas si simple que ça. Il y a des études qui disent des choses dans un sens ou des études qui disent des choses dans l'autre sens. Ce qu'on peut surtout rechercher dans la bio, c'est le respect de l'environnement puisque les céréales auront été cultivées sans pesticides. Oui. Et si elles ont été cultivées localement, ce qui n'est pas le cas malheureusement pour beaucoup de la production aujourd'hui, si elles ont été cultivées localement, bah c'est tout l'environnement qui s'en ressent. Et on ne peut pas dire que ce ne soit pas une bonne chose, c'est une très bonne chose. Donc de mon point de vue, le choix de la bio devrait se faire par rapport à des sensibilités environnement, et la plupart des gens le font pour des raisons de santé, pour ne pas prendre de risques avec leur santé. Mais c'est comme ça. Mais voilà, si la bio provient de céréales qui viennent d'Ukraine, avec des bateaux qui ont traversé les océans.
Et oui, le bilan carbone n'est pas bon.
Bah, l'environnement, c'est pas terrible. Hein.
Ouais, Alors, je vous propose une dernière pause musicale. On va retrouver Benabar avec une chanson qui s'appelle « À la campagne ». Et puis, on va parler justement du consommateur, des goûts du consommateur, et puis des retours que vous pouvez avoir du consommateur par rapport à ces poulets. On se retrouve tout à l'heure, après Benabar, à la campagne, sur Fréquencier.
À la campagne, il y a toujours un truc à faire. Aller aux champignons, couper du bois, prendre l'air. À la campagne, on se fout des horaires. Comme les maisons du même nom, c'est secondaire. À la campagne, y a toujours un truc à voir. Des sangliers, des hérissons, des vieux sur des tracteurs. À la campagne, y a des lieux pleins d'histoire. Des châteaux tout cassés et des arbres centenaires. À la campagne, quand on est citadin. À la campagne, on demande aux paysans le temps qu'il fera demain. À la campagne, on veut de l'authentique, du feu de cheminée et du produit régional. À la campagne, il nous faut du rustique, un meuble qui n'est pas en bois, ça nous ruine le moral. À la campagne, on dit qu'on voudrait rester, quitter Paris, le bruit, le stress et la pollution. À la campagne, c'est la fête aux clichés, la qualité de vie et le rythme des saisons. À la campagne, on se prête des pulls quand on traîne sur la terrasse. À la campagne, il y a des jeux de société auxquels il manque des pièces. À la campagne, la nuit on ferme des volets, il y a des bruits dans la maison et dehors dans la forêt. À la campagne, dans mon lit, plutôt que rêver, je préfère pas fermer l'œil et filmer. À la campagne, en principe, on se lève tôt. Pas moi, je dors encore, pour les raisons que vous savez. À la montagne, il y a des chalets, des chamois, mais c'est pas l'objet de cette chanson. Je voulais juste voir si vous suiviez. À la campagne, quand arrive le dimanche soir. À la campagne, pour éviter les bouchons, on va peut-être pas rentrer trop tard. À la campagne, j'ai envie d'être campagnard, d'avoir une grosse moustache et un gilet en velours. À la campagne, j'ai envie de parler terroir. Je m'en vais à cercler le calanchet pour pas qu'il vente dans les labours. Ça me donne envie d'être robuste et taiseux, le patriarche bourru d'une série de l'été de France 2. L'histoire d'une famille qui lutte pour son domaine, mais j'ai jamais le temps parce que je reste que le week-end. À la campagne, entends-tu au loin le cri de la grivette cendrée? À neige et la Noël, je rentrerai les bistouquets dans les tables.
À la campagne, on y reste et on y est avec dans Micro Libre, eh bien, Yves de la Fouchardière, directeur des fermiers de Loué, avec qui on parle depuis bientôt une bonne demi-heure de cette filière des fermiers de Loué, élevage de poules, de poulets, de pintades, de chapons, enfin tout ce qui a des plumes.
Tout ce qui a des plumes.
Et aussi les œufs.
Et
aussi les œufs. Vous êtes toujours là ?
Toujours, absolument, oui.
Voilà. En tout cas, c'est sympa d'être avec nous aujourd'hui pour nous expliquer un petit peu. On apprend vraiment beaucoup de choses aujourd'hui dans cette émission Micro Libre autour de quelque chose qu'on voit tous les jours autour de nous. On voit les panneaux de Loué au bout des fermes et puis
on passe devant
et puis on se pose pas trop la question de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc là, c'est l'occasion. Alors, on va partir un petit peu de l'autre côté des élevages. On va passer dans le côté des rayons supermarchés, consommateurs. Voilà. Je voulais savoir, alors, en termes de production, ça représente combien, combien de poulets produits chaque année.
Alors, ça vous paraît beaucoup, un peu plus de 20 millions de poulets produits par an. Et pour 100 producteurs, ça on fait pas tant que ça par producteur.
Et oui.
Comme je le disais tout à l'heure d'ailleurs, donc, la même quantité de poulets est produite par une quinzaine de producteurs à l'échelle de ce qui se monte aujourd'hui en Ukraine, Pologne ou ailleurs. Donc, c'est une production qui n'évolue pas beaucoup en termes de volume, qui peut connaître d'ailleurs des hauts et puis des bas en fonction de ce que veulent les consommateurs. Donc, on n'est pas amené à grandir beaucoup parce que le marché, comme on le dit, est mature. On vend surtout des poulets entiers.
Ouais.
Donc, et la consommation des poulets entiers n'est pas une consommation qui progresse beaucoup, malheureusement, parce qu'il n'y a pas plus bon marché que le poulet entier. Bah, c'est pas cher du tout. Et puis, c'est un truc incroyable, le poulet entier, c'est le partage, c'est le repas de famille, c'est le repas avec les amis. Et puis,
c'est le goût aussi, hein, parce qu'un poulet cuit, une pâte de poulet ou un blanc de poulet cuit à la casserole ou à la poêle, et puis un poulet cuit au four, ça n'a rien à voir, quoi. Donc l'idée, c'est pas forcément de faire grossir le marché, mais de tout simplement de continuer à vendre de manière, enfin à produire de manière raisonnée ou raisonnable, on pourrait dire.
Oui, on a même un principe qui est un principe bizarre, hein, qui quelquefois perturbe nos éleveurs quand les marchés sont pas au rendez-vous. On ne mettra jamais en élevage un poulet qui n'aurait pas été déjà vendu à l'avance. Donc il faut qu'on ait une commande. De la part de notre abatteur, notre distributeur, 4 mois à l'avance pour qu'on puisse avoir le temps d'élever le poulet. Et s'il n'y a pas de commande, on ne met pas en élevage. Donc les poulets, ils restent vides. Ce qui fait quelquefois quelque chose d'un peu surprenant par rapport au monde agricole qui a l'habitude de faire tourner son exploitation rapidement et tirer toutes les possibilités de l'outil de production. Bah, chez nous, on peut avoir que de temps en temps, les poulets qui restent vides, quelquefois un peu longtemps.
Ouais.
Mais c'est pas grave du tout parce qu'il vaut mieux... Bien sûr, ça rapporte pas. Mais une production qui n'aurait pas été attendue, elle sera bradée. Elle perdra beaucoup plus de valeur à un moment donné. Elle finira par être vendue, évidemment, sous le coup de revient, et voire quelquefois très nettement sous le coup de revient. Et là, un agriculteur est sûrement ruiné quand il n'est pas capable de couvrir ses charges.
Oui, et puis ce qui aussi conduit à une dépréciation aussi, même du label rouge lui-même. Si on vend des poulets, si on brade les choses, ça n'a plus tellement de sens de dire on a un label, on va défendre une certaine qualité. Emmanuel ?
Non, j'ai fait un petit calcul rapide, ça fait une moyenne de 500 poulets par tournée, on va dire, par producteur. Je pense qu'effectivement, après cette zone-là, il y a besoin d'un grand nettoyage des parcours.
Oui, bien sûr,
C'est ce temps-là que vous prenez.
Bien sûr, il y a un temps de vie sanitaire. Le vie sanitaire minimum, parce qu'évidemment, il faut la désinfecter. C'est pas parce qu'on va élever des poulets dehors qu'on doit faire prendre des risques aux consommateurs avec des volailles qui seraient sanitairement dangereuses. Ça arrivait autrefois, on a oublié tout ça, parce que maintenant, les productions agroalimentaires sont plus souvent de bonne qualité sanitaire, mais automatiquement, il y a un vide sanitaire qui est d'au moins de 15 jours. Donc pendant 15 jours, on n'y a pas de volaille dans l'exploitation.
Ouais.
On a lavé, on a désinfecté, on a dératisé parce que les rats, les souris, c'est pas bon.
Et oui, attiré par les grains, oui.
Et après, derrière, les poussins vont pouvoir revenir et redémarrer un nouveau cycle. Mais c'est minimum, mais si on n'a pas de commande, le vie sanitaire peut être beaucoup plus long.
Donc ça veut dire que c'est sur commande, en fait.
Oui, absolument. Absolument. On est tous dans l'attente des commandes chaque fois pour décider de ce qu'on va faire.
Ouais. Alors que la production de type industriel classique, on parlait déjà de producteurs, c'est vraiment on produit, peu importe si c'est vendu ou pas, c'est un peu ça.
Oui, et puis là, on se retrouve avec des poulets bradés à 3 euros les deux.
Non, moi, je veux prendre un peu la défense du poulet standard. Sur le poulet standard aussi, en général, la production est mise en place alors qu'il y a une commande. Hein, donc, ouais. Mais le cycle est plus rapide, les gens sont moins patients, les éleveurs sont moins patients, et peuvent quelquefois être demandeurs que les poulaillers soient rendus rapidement. Mais en général, il y a quand même toujours une commande donc, pour le poulet. C'est surtout sur la viande bovine. Et sur le cochon, sur lequel les flux sont pas du tout maîtrisés,
ouais.
Et les producteurs ont régulièrement des excédents.
Alors, vous savez, il y avait un temps où mon métier me baladait un petit peu dans toute l'Europe. Je m'occupais d'exportation et d'importation. Et il y a des containers entiers qui partaient de chez, je ne vais pas citer les noms parce que je crois qu'ils ont fait faillite tous, mais des grosses boîtes de Bretagne.
Il y avait Doux, par exemple.
Comment ?
Doux, père Dodu.
Voilà. Eh bien, ces gens-là nous faisaient expédier des conteneurs de poulets entiers et qui n'étaient vendus qu'arrivés au port. Mmh. Hein, et c'était très, très fréquent. Hein.
Et à l'époque, parce que c'est des années où la Bretagne s'est enrichie considérablement parce que la France était compétitive, les Bretons étaient courageux. Ils produisaient une volaille de faible qualité,
ah oui.
Mais qui correspondait aux standards de la mondialisation qui commençait à exister. Mais ils ont été assez naïfs, en de penser qu'ils resteraient compétitifs. Donc, ils ne sont pas restés, puisque, évidemment, les Brésiliens sont arrivés avec des coûts sociaux plus faibles, avec des prix de matières premières pas chères, et ils ont remplacé les Bretons sans problème. Donc, la France n'a aucune chance d'aller chercher le monde dans le domaine de la compétitivité. Elle peut trouver sa chance qu'en travaillant des segmentations de production, un niveau de qualité qui la différencie du reste du monde. Autrement, si le poulet loué pouvait être produit ailleurs dans le monde, ça fait longtemps qu'on n'en ferait plus.
Et à une époque où je sévissais dans le club des exportateurs de la Sarthe, là, il était question d'une installation de 3 usines en Chine. Vous aviez à l'époque un consultant qui avait un nom flamand, je ne me souviens plus comment il s'appelait, et qui avait comme...
ADC a eu un projet en Chine,
ouais.
Et qui a tourné court. Donc,
ça n'a pas abouti.
Qui a tourné court parce que il y a des entreprises françaises qui réussissent très bien en Chine. Les Chinois disent oui, vous connaissez bien l'étranger. Les Chinois disent oui, mais il y a des oui qui disent oui. Donc il faut savoir comprendre à quel oui on a affaire.
Oui, ça c'est sûr. Ouais.
Alors, moi, je voulais revenir un petit peu sur les consommateurs eux-mêmes. Est-ce qu'aujourd'hui, on assiste à un changement de mode de consommation ? Est-ce qu'on parlait du poulet entier aujourd'hui ? Pourtant, c'est la meilleure moyen de consommer du poulet. Est-ce que les gens ne délaissent pas ça et préfèrent aller sur des plats cuisinés ou des trucs comme ça ?
Vous avez absolument raison. Donc, c'est un de nos problèmes d'aujourd'hui. Donc, on se rend compte qu'on est dans une période où le changement de consommation est accéléré. Quand je suis arrivé à Loué il y a 22 ans, à peu près 30% des poulets étaient des poulets entiers, donc 30% des volailles consommées étaient des poulets entiers. Aujourd'hui, on est entre 20 et 25%, mais la baisse de la consommation des poulets entiers s'est considérablement accélérée depuis quelques temps.
Ouais.
Et c'est pas sans nous poser des problèmes, puisque si l'usage va vers la découpe, ben de manière très bizarre, donc quand les gens mangent des poulets entiers, dans 6 cas sur 10, ils prennent un poulet à la valeur rouge, et dans 1 cas sur 4, c'est un poulet loué. Quand ils mangent des poulets découpés, qui représentent plus de 35% de leur consommation de volaille aujourd'hui, simplement 12% des poulets découpés sont des poulets label rouge. Donc le reste, c'est des poulets industriels.
D'accord.
Donc industriels avec plus ou moins une histoire à raconter, des choses plus ou moins segmentées, mais c'est quand même du poulet industriel. Donc ça veut dire que les consommateurs, finalement, font confiance au label rouge quand il est entier, et peut-être sont contraints économiquement quand il est découpé et font pas le saut systématiquement vers le poulet label rouge.
C'est pas forcément les mêmes consommateurs.
C'est un peu dangereux pour nous, puisque ça veut dire que peut-être que demain on aura peut-être le meilleur. Alors, évidemment, on se bat pour pas que ça arrive, évidemment. On aura peut-être le meilleur poulet du monde, mais peut-être pas suffisamment vendu cause du fait que la découpe a pas pris autant que l'entier. Et comment y arriver quand il y a un écart de 10 euros du kilo, à peu près. Donc, il y a 10 euros du kilo qui sont largement mérités, hein, d'écart, mais pour un certain nombre de consommateurs, ça peut être un sujet.
Oui, Emmanuel.
C'est-à-dire les traditions, pardon.
Vas-y. Je disais que c'est pas forcément les mêmes consommateurs. Hein. On parle de poulet entier. Alors forcément, les mères de famille qui restent à la maison, qui ont le temps de préparer un poulet pour le soir, vont se pencher vers un poulet de qualité. Et puis il y a toutes les familles modestes qui, elles, ne savent pas forcément bien cuisiner, qui n'ont pas eu beaucoup d'expérience.
C'est aussi une question de temps aussi.
Il y a cette partie importante qui est effectivement le temps de cuisine, mais il y a aussi la partie financière qui touche quand même beaucoup de foyers aujourd'hui, où on est dans un pays qui va de plus en plus mal et où les gens ont tendance à aller acheter vite fait de la viande chez les Leader Price ou
pas cher.
Ou toutes ces boutiques à
bas coût. Oui, vous avez raison. Il y a aussi un autre sujet qu'on connaît bien, c'est la consommation n'est pas égale toute la semaine. C'est-à-dire que on peut, dans la semaine, en soirée, quand le repas existe encore, faire vite fait un aller-retour sur une poêle et pas trop se poser la question de savoir ce qu'il y a sur la poêle, et prendre un peu plus de temps quand c'est un repas avec des amis ou avec de la famille, et s'arrêter. Donc c'est pas toujours un consommateur, il n'y a pas des consommateurs qui sont exclusivement la belle rouge, il y en a évidemment, mais il n'y en a pas tant que ça. Il y a des gens qui ont un peu tendance à passer de l'un à l'autre, en fonction de l'usage, on va dire, et du moment, et vous avez raison, les contraintes économiques sont aussi là. Donc, mais c'est toujours un peu surprenant de parler de contraintes économiques quand on va retrouver dans les mêmes caddies quelquefois des produits, des plats cuisinés qui coûtent extrêmement cher par rapport à ce qu'ils apportent. Donc, par rapport à un produit, c'est un prof de médecine qui s'appelle professeur Reka qui dit l'avenir sera sur les produits natifs, sur les produits non transformés. Il a tellement raison, c'est pas ce qui se passe. Il m'avait raconté ça il y a 15 ans, mais monsieur la prochaine dernière, c'est vous qui avez les produits miracles dans la main, parce qu'on ne peut jamais tomber malade avec vos volailles. Si en plus ça fait la volaille, ça a beaucoup d'intérêt.
On a eu l'exemple de la viande de cheval dans les lasagnes.
Mais malgré tout, les plats cuisinés continuent à prendre de la place en France. Oui, les produits élaborés, les nuggets, les cordons bleus, toutes ces choses-là, ça prend de la place, ça grandit toujours plus. Il faut de temps, voilà. Du goût facile aussi, un peu du goût facile. Quand on met des cordons bleus, par exemple, c'est un goût facile. Il y a du fromage, il y a du gras. C'est du goût facile.
Puis il y a toute une mythologie qui a disparu quand même. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, le poulet, c'était le plat du dimanche. C'était quelque chose. Et d'ailleurs, ça coûtait à l'époque, proportionnellement à aujourd'hui, beaucoup plus cher que.
Mais il faut le dire, vous avez absolument raison, ça coûtait deux fois le bœuf.
Oui, exactement. Exactement. Alors, on faisait la fête autour du poulet. Après, il y a eu une politique, justement, de faire baisser les prix des poulets et par une baisse de la qualité. Et on s'est trouvé à une certaine période dans les années 60 avec des poulets dont les os pouvaient se manger tout seul parce que c'était mou et faible, des poulets à os noirs, etc. Et là, c'est là que le poulet a beaucoup perdu son prestige aussi.
Vous rappelez de la montagne belle de Jean Ferrat,
bien sûr,
avec le fameux poulet aux hormones.
Oui, tout à fait.
Alors, moi, j'avais une suggestion, une question. Peut-être que vous, éleveur de poulet de Loué, enfin éleveur représentant des éleveurs de poulet de Loué de la filière Label Rouge, est-ce que vous militez aujourd'hui pour dire peut-être qu'il faudrait peut-être moins manger de viande, mais manger mieux? C'est peut-être un peu ça la solution qu'il faudrait adopter pour garder une qualité de production.
On est tous d'accord pour ça, mais vous regarderez de près dans les statistiques, c'est pas exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que on le répète depuis des années, c'est pas exactement ce qui se passe. Au même titre d'ailleurs qu'on dit manger plus de fruits et légumes, et j'ai vu les stats récemment de la consommation des fruits et légumes entre 2011 et 2017, puisqu'ils n'ont pas 2018 évidemment encore actuellement, la consommation de fruits et légumes a baissé de 2%. C'est-à-dire on a beau répéter aux gens ce qu'il faudrait qu'ils fassent, quelques-uns le font, mais beaucoup ne le font pas, finalement. Les gens continuent à aller à la facilité. Ouais. Manger moins, mais manger mieux, ça serait en effet un bon slogan, mais malheureusement, il n'est pas entendu par tout le monde.
Mais au niveau de la diététique, c'est quand même la viande blanche qui est promue comme moins grasse pour les régimes nombreux qui paraissent dans les journaux féminins. c'est quand même, à condition de ne pas manger la peau du poulet. Voilà.
Et de ne pas le faire frire. Ils
n'aiment pas le faire cuire. Alors moi j'avais une dernière question pour terminer ce panorama sur les poulets de Loué. Alors les poulets de Loué, même ceux qui n'en mangent pas, connaissent tous les publicités sur les poulets de Loué. Et on voit que c'est quelque chose qui me fait beaucoup rire, mais qui ne fait pas forcément rire tout le monde. Mais je veux dire, où est-ce que vous avez été chercher toutes ces idées-là et pourquoi avoir mis ça sur la pointe un peu de l'humour ou de la dérision ou de l'ironie aussi?
Non, la dernière campagne a beaucoup plu. On a eu plus de discussions quand on avait nos amis à Képi,
oui,
qui nous ont accompagnés pendant quelques années. Donc, mais c'est vrai que le propre d'une marque qui vit, c'est qu'on voit qu'elle vit. Ces idées de publicité un peu décalées, parce que quand on a commencé à vouloir comparer nos publicités avec notre poulet de Loué, en mettant un flic souriant sur un carré d'herbe et dire ça c'est un poulet de Loué, et à entasser mon conseil d'administration, parce qu'on a une photo en question, c'est mon conseil d'administration entassé dans une camionnette pour dire ça c'est d'autres poulets, c'était bien plus comparatif qu'on faisait.
On les a encore dans le réfectoire de l'établissement.
Ils étaient à Képi, et c'est vrai qu'on a eu quand même une grosse adhésion, à commencer par les flics. Les politiques étaient un peu moins aimés, mais les flics avaient adoré, puisqu'on en a livré 8000 d'affiches dans les commissariats de police, on la voit souvent d'ailleurs dans les reportages. Didier Deschamps, qui est Didier, un de mes éleveurs, qui était d'ailleurs qui a été vraiment très, très bon tout cet été, quand Didier, qui ressemble à Didier Deschamps...
Oui, j'ai la photo sur
avant
les yeux,
que ce soit l'autre qui lui ressemble, parce que mon Didier, qui s'appelle Didier Guillet, est né avant l'entraîneur de football, donc je pense que c'est plutôt l'autre qui lui ressemble. Et quand il a fait sa campagne cet été, ça a été un moment magique, c'était vraiment très sympa, parce qu'on était dans le bon timing. Alors ça crée de la sympathie autour de Loué, ça ne fait pas automatiquement des ventes, ça change pas la nature du monde, mais c'est faire sourire les gens à notre époque où tout le monde fait un peu la tête et tout le monde a des soucis, se pose des questions. C'est toujours ça.
Quoi. Je pense que ça vous inscrit aussi dans une différence.
Oui, puis ça fait parler d'une marque aussi.
C'est une marque sérieuse qui se prend toujours au sérieux.
Christian.
Oui, ça, tu disais que c'est ta dernière question, mais non, moi j'en ai une encore.
Vas-y.
J'en ai une au niveau du marché. Par exemple, je disais que mon travail m'obligeait à voyager dans toute l'Europe, et je trouvais, par exemple, en Allemagne, vous trouvez du poulet de Loué.
Absolument. Il y en a toujours, mais pas assez. Il faut qu'on en ait plus. On n'a pas été bon. Moi, il y a beaucoup de domaines où on n'a pas été mauvais, mais dans le domaine de l'export en Europe, on n'a pas fait notre boulot comme il faut. On a que 5 à 7% de nos volumes qui partent essentiellement en Europe et dans les grands restaurants du Moyen-Orient, du Proche-Orient.
C'est pas assez.
On fait un poulet qui est tellement exceptionnel, on devrait avoir un tiers de nos volumes qui devraient partir à l'étranger.
Parce que la plupart du marché du poulet dans un pays comme l'Allemagne, qui est quand même le plus important de toute l'Europe, c'est les Polonais qui sont
Polonais ou de l'Allemand aussi, il y a Visano. Oui,
tout à fait. Et il faut voir la qualité de ce qu'ils font, c'est dégueulasse. Hein.
Oui, c'est dégueulasse.
Le poulet polonais, c'est abominable. Hein. Et je vois par exemple le marché de la Roumanie essaie de sortir un peu du poulet polonais parce qu'il n'est pas cher, mais ça ne marche pas. Quoi.
Ça coûte moins cher que les poivrons qui l'accompagnent.
Et aller goûter un poulet polonais, je vais vous dire. C'est... Et alors, il y a autre chose aussi qui m'interpelle, comme on dit maintenant. Je vous ai dit, on trouve des poulets à peu près dans toute l'Europe, des poulets de Loué. Quand je vais, ce qui m'arrive à peu près une fois par semaine, faire mes courses avec ma compagne dans les supermarchés de la région de Rennes, il n'y en a pas un dans les rayons. Ni la viande, ni le poulet. Je parle surtout de Leclerc.
Oui, chez Leclerc, je vais vous expliquer sur les Leclerc. Leclerc, normalement, il devrait y avoir des poulets de Loué. C'est une enseigne qui est assez sérieuse. Sur les œufs, c'est nous qui avons refusé leur vendre des œufs à une époque. Ils avaient une politique de prix qui n'était pas adaptée. Et on fait partie des rares marques à avoir dit non à un moment donné. Donc, c'est nous qui avons dit non, c'est pas eux.
Ils sont reculés en général.
Depuis, Michel-Edouard Leclerc est venu nous voir. Il a trouvé que ce qu'on faisait, c'était formidable. Et il pense qu'il faut qu'on revienne chez eux. Ce qu'on va certainement faire, mais pas à pas. On va aller doucement, tranquillement. C'est bravo pour votre observation. Donc c'est bien la preuve que vous regardez bien. Vous regardez bien si vous trouvez bien Loué. Mais comme vous ne pouvez pas en magasin, réclamez-le. Ça peut que me rendre service.
C'est surtout la preuve que je consomme du poulet Loué.
Oui, exact.
Alors, je crois qu'on arrive à la fin de cette émission. On en pourrait encore en parler encore des heures autour de ce poulet de Loué. Bon, l'idée, c'était de parler de ce qui se passe autour de chez nous et puis de présenter une filière. Moi, j'ai appris un tas de choses. J'espère que vous, autour de la table aussi, vous avez...
Ah oui, j'étais très agréablement surprise.
Et puis les auditeurs aussi, puisque on a appris quelque chose, enfin des choses sur quelque chose qui est chez nous.
Puis on se rend compte aussi que c'est là depuis longtemps.
C'est là depuis longtemps, oui. En tout cas, monsieur...
Grand merci pour l'initiative, parce qu'on a besoin d'être... C'est super ce que vous faites, bravo. Parce que nous, on a besoin d'expliquer, vous savez, on est toujours persuadé d'être connu, parce qu'on a plein d'éleveurs autour de nous, mais finalement, on ne se connaît pas bien. Donc, c'est à nous de prendre du temps aussi pour ça.
Mais si la qualité de votre produit change en un an, on vous reconvoquera.
Non, ne vous inquiétez pas, c'est pas prêt de changer.
Je suis pas très
inquiet. C'est pas prêt de changer, il y a des gens qui veillent fortement à ça. Hein, donc,
Alors, on fera peut-être une émission sur le sujet, peut-être avec un agriculteur pour changer, qui nous parle un peu de son élevage au quotidien, sur les poulets
doués.
Et quelques recettes aussi, pourquoi pas. En tout cas, Yves de la Fouchardière, en tout cas, merci d'avoir passé cette heure avec nous. C'était passionnant, on a appris un tas de choses. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation sur ce Loué et puis sur l'image que vous donnez aussi de la Sarthe en général. En tout cas, je vous remercie. Au revoir.
Merci, à bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
La stierra de España, la grande, la sola, desiertas llanuras. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suena, resuena, resuena, las tierras de España en la cerradura. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, 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 que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, a galopar.